Bonsoir et bienvenue à vous. Un grand merci de nous rejoindre ce mardi 13 août 2024, Nanit Talani à Washington, la capitale fédérale américaine, pour vous présenter le monde aujourd'hui. Ce soir, coup de projecteur sur la journée sans presse au Sénégal. Les médias dénoncent un harcèlement fiscal qui menace, selon eux, leur survie.
D'abord, c'est une journée très réussie, extrêmement réussie, parce que la plupart des groupes de presse ont observé la journée. Les sites internet l'ont observé. Les citoyens sénégalais et les syndicats ont adhéré. Ils ont envoyé des morceaux de soutien à la presse sénégalaise qui avait fait une presse sans, une journée sans presse.
Vous suivrez cette interview d'un patron de presse sur cette situation. En Ouganda, Thomas Kweyolo, ex-commandant de la LRA, déclaré coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. En Afrique du Sud, Johannesburg se cherche un nouveau maire après la démission de Kabelo Gwamanda. Donald Trump porte plainte contre le ministère américain de la Justice pour persécution politique. En sport, demi-journée fériée en l'honneur de l'athlète Bogo qui a fait briller le Botswana à Paris au JO. Que Los Angeles est prête à accueillir. Et puis n'oubliez pas, l'économie dans environ 10 minutes, tout de suite le journal. Journée sans presse au Sénégal. Plusieurs médias sont en grève pour alerter sur les mesures fiscales et économiques des nouvelles autorités qui leur font craindre pour leur survie, notamment à cause du blocage des comptes bancaires des entreprises de presse pour non-paiement d'impôts, de la rupture unilatérale et illégale des contrats publicitaires et du gel des paiements dus aux médias. Quelques journaux ont choisi de ne pas respecter le mouvement, notamment le quotidien pro-gouvernemental Le Soleil et les journaux dont la ligne éditoriale est favorable au pouvoir. Quelques chaînes de télévision comme la chaîne publique RTS ont aussi continué à émettre. Nous vous proposerons dans nos dossiers du jour une interview sur cette grève avec Alassane Samba Diop, DG du groupe Emedia Invest. En Ouganda, un tribunal a déclaré ce mardi l'ancien commandant de la rébellion de l'armée de résistance du seigneur Thomas Kweyolo coupable de 44 chefs d'accusation relevant de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La division des crimes internationaux siégeant dans la ville de Goulou, dans le nord du pays, annoncera la peine à laquelle elle le condamne au plus tard mardi prochain. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Thomas Kweyolo était visé par 78 chefs d'accusation, dont meurtre, esclavage, pillage, enlèvement, viol et torture. Il a été reconnu coupable de 44 délits et condamné, mais blanchi de 3 autres accusations et 31 autres ont été rejetées par le juge. Thomas Kweyolo a été arrêté en 2009 en RDC. La plupart des crimes qui lui sont reprochés ont été commis entre 1996 et 2005, dans le nord de l'Ouganda, notamment dans sa région d'origine du district d'Amuru. Lors des audiences qui se sont terminées en mai, cet ancien colonel de la LRA, âgé de 49 ans selon l'un de ses avocats, avait plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation le visant. Ce jugement est le premier prononcé pour de tels faits par une juridiction d'Ouganda contre un responsable de la LRA, mouvement de guérilla fondé dans le pays, dans les années 1980, qui a sémé la terreur en Afrique centrale durant une trentaine d'années.
En Tanzanie, le principal parti d'opposition, le Chadema, affirme que plusieurs de ses principaux dirigeants ont été battus lors de leur arrestation dans le cadre d'une rafle massive avant un rassemblement interdit. Le président du Chadema, Freeman Mbowe, et son adjoint Tundu Lissou, tous deux anciens candidats à la présidence, ainsi que d'autres hauts responsables, ont été libérés sous caution ce mardi après avoir été arrêtés avant la manifestation de jeunes prévue lundi dans la ville de Mbeya, dans le sud-ouest du pays. Le maire de Johannesburg a démissionné ce mardi après des mois de querelles politiques et de polémiques sur l'état de délabrement de la vaste agglomération qui est aussi le poumon économique de l'Afrique du Sud. Les détails avec John Lydon.
La démission de Kabelo Gwamanda, 39 ans, qui occupait le poste depuis moins de 15 mois, signifie que la ville de près de 5 millions d'habitants devrait bientôt être dirigée par son 8e maire en 5 ans. Gwamanda, un inconnu en politique lors de son élection surprise en mai 2023, était soumis à de fortes pressions pour démissionner. Ses administrés expriment depuis des mois un mécontentement croissant sur la médiocrité des services de base, notamment l'eau et la collecte des déchets, dont les prix ne cessent pourtant d'augmenter, ainsi que la détérioration des infrastructures. Le conseil municipal se réunira vendredi pour élire un nouveau maire selon un communiqué de la ville. La presse locale avance que Dada Moreiro, haut responsable du Congrès national africain, originaire du township voisin de Soweto et qui a été brièvement maire en 2022, pourrait succéder à Kabelo Kwamanda du petit parti musulman Al-Jama.
L'Agence de santé de l'Union africaine, Africa CDC, a déclaré une urgence de santé publique en raison de l'épidémie de Mpox, marquant son plus haut niveau d'alerte, a annoncé ce mardi son directeur. Le point avec Eric Manirakiza.
Le Mpox s'est désormais propagé au-delà des frontières, touchant des milliers de personnes sur notre continent, a déclaré le président de l'Africa CDC, Jean Kasenya, lors d'une conférence de presse. Il a souligné que cette déclaration vise à mobiliser une réponse immédiate. C'est un appel urgent à l'action car nous devons être proactifs et déterminés pour contenir et éradiquer cette menace, a-t-il précisé. Anciennement appelé variole du singe, le Mpox est une maladie virale transmissible de l'animal à l'homme, mais qui peut également se propager par contact étroit avec une personne infectée par le virus. Le continent est confronté à une nouvelle souche baptisée Clade IB, détectée en RDC en septembre 2023. Cette souche plus mortelle et transmissible se distingue par des éruptions cutanées généralisées, alors que les souches précédentes se limitaient à des éruptions localisées. Les cas ont augmenté de 160% en 2024 par rapport à l'année précédente, selon les données de l'Africa CDC publiées la semaine dernière. En 2022, une épidémie mondiale portée par le sous-type Clade 2 a touché une centaine de pays non endémiques, principalement parmi les homosexuels et bisexuels. L'OMS avait alors décrété l'alerte maximale en juillet 2022, avant de la lever en mai 2023.
La communauté internationale ne fait pas assez pour combattre la plus grande crise de déplacement au monde au Soudan, où la faim, les maladies et les inondations aggravent les souffrances d'une population déjà en proie au conflit, a déclaré ce mardi l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Elle affirme n'avoir reçu que 21% du soutien dont elle a besoin pour fournir une aide cruciale aux Soudanais.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici, aux États-Unis, Donald Trump porte plainte contre le ministère américain de la Justice. L'ancien président américain réclame 100 millions de dollars pour tentative de persécution politique lors de la perquisition en 2022 de sa résidence en Floride par le FBI pour retrouver des documents classifiés. Davantage avec Alexandrine Holognon.
La plainte déposée la semaine dernière accuse le ministre de la Justice Merrick Garland et le patron du FBI Christopher Wray de s'être éloigné du protocole appliqué pour les anciens présidents pour blesser Donald Trump. Garland et Wray n'auraient jamais dû approuver une perquisition et la mise en examen qui a suivi, peut-on lire dans la plainte qui réclame 100 millions de dollars de dommages et intérêts et 15 millions de dollars au titre des frais de justice. Dans un communiqué, le FBI avait assuré qu'il n'y avait pas eu d'écart par rapport à la norme dans cette affaire, menée le 8 août 2022. Donald Trump n'était pas en Floride le jour de la perquisition. L'ancien président était poursuivi en Floride pour sa gestion jugée négligente de documents confidentiels retrouvés à sa résidence de Mar-a-Lago après son départ de la Maison-Blanche. Une juge fédérale a annulé mi-juillet les poursuites, mais le procureur spécial qui instruit cette affaire a fait appel de cette décision.
L'offensive ukrainienne en Russie est légitime et s'arrêtera si Moscou accepte une paix juste et met fin à son invasion de l'Ukraine, a déclaré ce mardi la diplomatie ukrainienne. Plus vite la Russie acceptera de rétablir une paix juste, plus vite cesseront les incursions des forces de défense ukrainiennes en territoire russe, a prévenu Kiev qui dit ne pas chercher à annexer des territoires russes sous son contrôle, mais à créer une zone tampon le long de la frontière pour protéger sa population et son armée des bombardements russes incessants et à affaiblir l'offensive du Kremlin qui ne cesse d'avancer dans l'est de l'Ukraine. L'Iran rejette l'appel de pays occidentaux à renoncer à ses menaces contre Israël, affirmant qu'il ne demanderait pas l'autorisation de riposter contre son ennemi juré qu'il accuse d'avoir assassiné le chef du Hamas palestinien, Ismaïl Haniyeh, sur son sol. Une telle demande, manque de logique politique, est totalement contraire aux principes et aux règles du droit international, a réagi ce mardi la diplomatie iranienne. Selon Washington, une attaque iranienne pourrait certainement avoir un impact sur les discussions prévues jeudi sur un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'Égypte renforce ses liens avec la Russie pour le blé. Le Botswana subit de plein fouet la baisse des prix des diamants et Samsung est confronté à des tensions sociales. C'est la Minute Éco, signée Alexandrine Holunion.
L'acheteur public de matières premières égyptien, GASC, est en pourparler pour acheter 30 cargaisons ou jusqu'à 1,8 million de tonnes de blé à des vendeurs dont la Russie, selon des négociants en Europe et au Moyen-Orient. La Russie, premier exportateur mondial de blé, a renforcé sa présence au Moyen-Orient et sur d'autres marchés émergents dans le but d'augmenter ses exportations agricoles de 150% d'ici à 2030. Le Botswana veut renégocier son projet d'achat avec le négociant en pierres précieuses belge HB Antwerp à la suite du ralentissement du marché du diamant. Le Botswana, premier producteur mondial de diamants en termes de valeur, a vu son économie touchée de manière disproportionnée par la baisse de la demande de diamants provoquée par le ralentissement économique mondial. Le géant de la technologie Samsung fait face à une nouvelle menace de grève cette semaine en Corée du Sud. Le principal syndicat des travailleurs de l'entreprise a déclaré mardi qu'il entamerait une grève de 4 jours à partir de jeudi. Il souhaite faire pression sur l'entreprise pour obtenir une augmentation des salaires et des primes. Cette grève intervient quelques semaines après l'échec des négociations avec la direction en juillet dernier.
Bonsoir Eric.
Bonsoir Nanit.
Un demi-jour férié décrété au Botswana pour l'Etile Tebogo.
Le président Mokgweetsi Masisi a déclaré férié la demi-journée de ce mardi après-midi en l'honneur du sprinteur Letsile Tebogo qui a apporté à son pays la première médaille d'or olympique de son pays en remportant le 200 mètres à Paris. Le président avait déjà accordé à ses concitoyens un congé d'une demi-journée vendredi pour célébrer la sensation du Botswana. Le pays a décroché aussi l'argent dans le relais 4 x 400 mètres. Portant à 4 le nombre total de médailles olympiques de l'histoire du pays.
La Chine célèbre sa réussite olympique.
La Chine a célébré ce mardi dans ses médias d'État et sur les réseaux sociaux l'un des meilleurs bilans olympiques de son histoire après les 40 médailles d'or remportées aux JO de Paris. Pékin a réalisé sa meilleure performance dans des Jeux olympiques hors de son pays, obtenant le même nombre de médailles d'or que les États-Unis, mais elle est distancée au nombre global de médailles par son rival de géopolitique 126 à 91.
Le drapeau olympique arrive à Los Angeles, ici aux États-Unis.
Le passage de relais est officiellement validé. Le drapeau olympique est arrivé sous un soleil radieux lundi à Los Angeles. Les autorités ont désormais 4 petites années pour organiser des Jeux capables de rivaliser avec le spectacle proposé par Paris. La maire de la ville, Karen Bass, a atterri dans un avion siglé de palmiers et du logo Los Angeles 2028 avant de parader sur le tarmac avec l'étendard aux 5 anneaux en compagnie de plusieurs athlètes américains. La dernière fois que Los Angeles a accueilli les Jeux olympiques en 1984, beaucoup d'habitants avaient quitté la ville pour libérer de la place sur la route.
Et pour terminer, Eric, Supercoupe d'Europe, le Real Madrid en quête d'un 6e trophée.
Le Real Madrid affronte demain mercredi à Varsovie en finale de la Supercoupe d'Europe, l'Atalanta Bergame. Largement favori pour ce match, le roi d'Europe devra néanmoins se méfier de l'Atalanta, qui a mis fin à l'impressionnante série d'invincibilité du Bayer Leverkusen pour s'imposer en finale de la Ligue Europa le 22 mai, 3-0. En cas de succès, le Real Madrid deviendrait la première équipe à remporter 6 fois la Supercoupe d'Europe, réaffirmant déjà son statut européen.
Le Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Nanit Talani toujours avec vous. Avant de mettre un terme à ce journal, explorons d'abord nos dossiers du jour. Plusieurs médias sénégalais ont suivi ce mardi le mot d'ordre de la journée sans presse pour alerter sur les mesures fiscales et économiques qui menacent, selon eux, leur survie. Le Conseil des diffuseurs et éditeurs de la presse au Sénégal met en cause les autorités au pouvoir depuis avril, notamment pour le blocage des comptes bancaires des entreprises de presse pour non-paiement d'impôts, la rupture unilatérale et illégale des contrats publicitaires, le gel des paiements dus aux médias. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint à Dakar Alassane Samba Diop, DG du groupe Emedia Invest.
D'abord, c'est une journée très réussie, extrêmement réussie, parce que la plupart des groupes de presse ont observé la journée. Les sites internet l'ont observé. Les citoyens sénégalais et les syndicats ont adhéré. Ils ont envoyé des morceaux de soutien à la presse sénégalaise qui avait fait une presse sans, une journée sans presse. Nous avons fait cette journée pas dans le but de chercher une confrontation. Nous voulons que le gouvernement nous entende, nous écoute, nous parle. Nous sommes des anti-sénégalais, nous avons le droit à ce que nos gouvernements nous écoutent, nous parlent.
Qu'est-ce que vous voulez proposer au gouvernement, le modèle que vous proposez pour la survie de la presse?
Mais c'est très simple, il y a beaucoup de modèles. Le modèle d'abord, c'est de dire au gouvernement que le modèle économique dans lequel nous sommes aujourd'hui n'est plus opérant. Je pense qu'aujourd'hui la presse a complètement changé, qu'il faut aller vers la digitalisation. Le modèle économique se trouve dans l'Internet, dans la digitalisation. Mais, sachez une chose, au Sénégal, en Afrique, les GAFAB ne payent pas la presse africaine. Contrairement aux États-Unis ou en France, où là-bas, les gouvernements ont plus de choses en main pour que les GAFAB les payent. Nous travaillons, Google, Facebook pompe nos articles, génère la publicité à côté, nous ne payons aucun franc. Alors, au travail, c'est nous qui le faisons. On n'est pas rémunéré. Ça, déjà, c'est un gros manque à gagner. Ensuite, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de réformer, de faire structurer la presse. C'est des journalistes doivent être multimédia, former des journalistes qui soient à une façon de ce qui se passe dans les réseaux sociaux, dans l'Internet, pour qu'ils s'adaptent aux nouvelles technologies, de la communication de l'information. Mais ça demande la formation, ça demande l'accompagnement, ça demande une vision. C'est ce que nous demandons aujourd'hui aux autorités de nous accompagner pour ce faire. Nous avons reçu aucune réponse par rapport à ces questions qui sont bien posées, qui ont été envoyées dans la République.
Et quels sont les dangers de cette disparition potentielle des médias classiques?
Mais les dangers, c'est très simple. C'est des milliers d'emplois, c'est des milliers de jeunes qui seront dans la rue, des journalistes qui sont formés à bonne école, qui vont se mettre dans la rue, ils n'auront pas de boulot. Parce que les gens qui n'arrivent pas à payer les salaires, à payer les dons, ils vont fermer boutique, c'est tout. C'est là la crise, la conséquence, c'est des milliers de jeunes qui seront dans la rue. Alors que ces autorités-là ont été élues justement sur la base de création d'emplois. Nous créons des emplois, on doit nous accompagner dans cette création d'emplois, dans la formalisation, dans aider davantage les jeunes à les former. Le rôle de l'État, c'est d'accompagner une presse solide, crédible, une presse professionnelle indépendante. C'est que les jeunes aujourd'hui peuvent être récupérés par des forces étrangères, d'autres forces occultes. La presse est un secteur fondamental pour une démocratie. La presse sénégalaise a participé de façon remarquable à la démocratie sénégalaise. C'est grâce à la presse sénégalaise qu'on a pu avoir les alternances au Sénégal. Elle a permis la clarté des votes des Sénégalais. Moi qui vous parle, j'étais dans le bureau d'Abdou Diouf, le bureau dans lequel Abdou Diouf avait voté, à Berthe Maubert, à son centre-ville, où il a été battu dans son bureau de vote. Ça a permis au Sénégal d'avoir une première alternance. Idem quand Abdoulaye Wade est venu au pouvoir, idem quand Macky Sall est venu, idem pour Diomaye qui est là. C'est grâce à la presse qu'ils sont là. Elle participe à la presse sénégalaise, à la stabilité du pays. Quand il y a la Covid, la presse était là, au front, celle qui donne les informations aux populations. La stabilité du Sénégal dépend aussi du travail que la presse a eu à faire. Au Sénégal, les débats démocratiques, où les gens peuvent se parler, elle fait des services publics. Mais ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, ça.
C'était Alassane Samba Diop, DG du groupe Emedia Invest.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Un rapport conjoint de l'ONU et de l'Union africaine en 2023 fait état de risques accrus pour les personnes atteintes d'albinisme avec le réchauffement climatique en Afrique. Une analyse récente de World Weather Attribution avertit que de telles vagues de chaleur pourraient devenir plus fréquentes en Afrique de l'Ouest. Plus de détails avec Blanche Sanou.
Lorsque le soleil d'été est au zénith à Cotonou, la capitale du Bénin, Karine Kiki applique soigneusement de la crème solaire sur le dos pâle de ses jumelles. Vivant avec l'albinisme, les deux fillettes font partie d'une communauté déjà vulnérable qui fait désormais face à des risques accrus avec des vagues de chaleur extrêmes en Afrique. Karine Kiki est la mère des jumelles albinos.
Elles ne tombent pas souvent malades. En termes de santé, leur seul problème est leur peau. Lorsque les taches sont apparues sur leur peau, je les ai emmenées 3 fois chez un dermatologue. Il m'a ordonné une vigilance constante pour protéger les filles des rayons nocifs du soleil.
Karine Ongué, une femme albinos de 38 ans, a fondé Albi International, une association qui déploie des efforts pour soutenir les familles comme celle de Karine.
C'était le soleil qui avait causé le cancer de ma soeur. Donc, après l'enterrement et tout, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour faire savoir à nos frères albinos que le soleil était un danger. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer quelque chose pour les réunir. Il faut créer quelque chose pour sensibiliser, pour que la voix porte. Forcément, il faut une ONG ou une association.
Le docteur Jan Asogba, dermatologue à Cotonou, a expliqué les risques accrus des fortes températures pour les personnes atteintes d'albinisme. Docteur Asogba a souligné l'importance du port de chapeaux, des lunettes et des crèmes solaires, ainsi que des vêtements de protection face à des événements météorologiques extrêmes comme les fréquentes vagues de chaleur. Docteur Jan Asogba est dermatologue à Cotonou.
On sait que les rayons ultraviolets créent des altérations aux ADN des cellules de la peau. Et l'accumulation de ces dommages va entraîner une modification des cellules de la peau qui vont devenir progressivement cancéreuses. Et donc, les mesures de protection se résument en un seul terme, la photoprotection, pour en fait limiter la dose de rayons ultraviolets reçus.
Alors que le changement climatique menace de rendre la chaleur extrême plus fréquente en Afrique de l'Ouest, des initiatives comme Albi International peuvent s'avérer cruciales pour protéger les communautés vulnérables, notamment pour des familles comme celle de Karine, qui font face à un défi à la fois médical et financier.
L'immigration est l'un des principaux enjeux des prochaines élections américaines. La vice-présidente Kamala Harris fait campagne sur ses réalisations en tant que procureur, tandis que l'ancien président Donald Trump dénonce le bilan de l'administration actuelle et promet de déportations massives d'immigrants sans papier. Aline Barros, journaliste spécialiste de l'immigration à la VOA, en dit plus. Le récit est de Lionel Gaïma.
La guerre en Ukraine n'est plus circonscrite. C'est ce qu'affirme le président ukrainien Volodymyr Zelensky, confirmant que ses troupes ont pénétré.
Nous disions que l'immigration est l'un des principaux enjeux des prochaines élections américaines et la vice-présidente Kamala Harris fait campagne sur ses réalisations en tant que procureur, tandis que l'ancien président Donald Trump dénonce le bilan du gouvernement actuel et promet des déportations massives d'immigrants sans papier. Aline Barros, journaliste spécialiste de l'immigration à la VOA, nous en dit plus. Le récit est de Lionel Gaïma.
Lors de sa campagne, la vice-présidente Kamala Harris met en avant son expérience en tant que procureur de district puis procureur général de Californie.
J'ai parcouru les tunnels souterrains entre les États-Unis et le Mexique, le long de la frontière, avec des agents des forces de l'ordre. Je me suis attaqué aux gangs transnationaux, aux cartels de la drogue et aux trafiquants d'êtres humains qui entraient illégalement dans notre pays. Je les ai poursuivis dans différentes affaires et j'ai gagné.
Pendant son mandat, l'ancien président Donald Trump a construit plus de 80 km de murs frontaliers. Il a réduit le plafond annuel des admissions des réfugiés à des niveaux historiquement bas et appliqué une politique qui séparait les enfants de leurs parents.
En novembre, le peuple américain comparera ces dossiers et dira « La tsar de frontières, Harris, vous avez fait un travail horrible. Vous êtes une honte pour notre pays. Vous êtes renvoyé. Sortez d'ici. Vous êtes viré. Sortez d'ici. »
L'immigration est un sujet brûlant dans cette élection présidentielle. Selon une enquête de Chicago Council, 50% des personnes interrogées estiment qu'une immigration massive constitue une menace pour les États-Unis. Un peu plus de la moitié des Américains sont favorables à un mur frontalier et à l'utilisation de troupes américaines à la frontière américano-mexicaine. D'autres s'opposent à l'expulsion massive des immigrés sans papier. Le Congrès n'ayant pas réussi à adopter une réforme de l'immigration, la nation reste dépendante des mesures exécutives, des réglementations, quel que soit le gouvernement en place. Corey Foreman est un avocat en droit de l'immigration.
Dans le contexte politique actuel, la situation est difficile parce que les mesures prises par l'exécutif feront toujours l'objet de recours judiciaires et le Congrès n'est pas disposé à agir.
Harris s'engage à soutenir une législation sur la sécurité des frontières, soulignant le rôle de Trump dans l'échec d'un projet de loi bipartisan au Sénat au début de l'année.
Il a fait échouer l'accord bipartisan parce qu'il pensait que cela l'aiderait à gagner les élections. Ce qui montre que Donald Trump ne se préoccupe pas de la sécurité des frontières. Il ne se préoccupe que de lui-même. Voici donc la promesse que je vous fais. Si je suis élue présidente, je ramènerai le projet de loi sur la sécurité des frontières que Donald Trump a tué et je le promulguerai.
Les alliés républicains de Trump l'ont exhorté à se concentrer sur les domaines dans lesquels ils estiment qu'il a un avantage sur Harris, notamment en matière de l'immigration. Il continue d'appeler à l'expulsion des migrants sans papiers et critique l'administration Biden-Harris pour ce qu'il appelle une politique d'ouverture des frontières.
Avec votre vote, l'inflation cessera. Les clandestins seront refoulés. Ils ne viendront pas et nous devons les arrêter. Vous avez vu ce qu'elle a dit maintenant? Oh, nous avions une très bonne frontière. Oh, super, ils avaient la pire frontière de l'histoire du monde.
Les gardes frontières américains ont enregistré environ 130 000 traversées en juin, en hausse par rapport aux 104 000 du même mois de 2019, la dernière année de Trump à la présidence avant la pandémie, mais en baisse par rapport au pic de 300 000 enregistré en décembre 2023.
L'armée ukrainienne a mené une offensive en Russie ces derniers jours. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé lundi que son armée avait décidé de pousser la guerre sur le territoire russe en menant des attaques dans la région russe de Koursk. Les détails avec Anita Powell, correspondante de la VOA à la Maison-Blanche, récit Alexandrine Holognon.
La guerre en Ukraine n'est plus circonscrite. C'est ce qu'affirme le président ukrainien Volodymyr Zelensky, confirmant que ses troupes ont pénétré ces derniers jours dans la région russe de Koursk, située à l'extrême ouest du pays.
Il n'est que juste de détruire les terroristes russes là où ils se trouvent, là où ils lancent leurs frappes. Les aérodromes militaires russes, la logistique russe. Nous voyons à quel point cela peut être utile pour se rapprocher de la paix. La Russie doit être contrainte à la paix si Poutine veut continuer à faire la guerre avec autant d'acharnement.
100 000 civils russes ont fui l'offensive ukrainienne et le président russe Vladimir Poutine a affirmé que cela avait entraîné une hausse des enrôlements.
Il semble que l'ennemi cherche à améliorer ses positions de négociation à l'avenir. Mais de quel type de négociation pouvons-nous parler avec des gens qui lancent des frappes aveugles sur des civils, sur des infrastructures civiles et qui tentent de créer des menaces pour les installations d'énergie nucléaire? De quoi pouvez-vous leur parler?
La Maison-Blanche et le département d'État ont adressé lundi une sévère mise en garde à Moscou concernant l'utilisation de munitions iraniennes. Vedant Patel est le porte-parole adjoint du département d'État.
Nous sommes prêts à apporter une réponse rapide et sévère si l'Iran devait procéder au transfert des missiles balistiques, ce qui représenterait, selon nous, une escalade dramatique dans le soutien de l'Iran à la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Les responsables iraniens continuent également de nier avoir fourni de drones à la Russie, alors que les preuves sont évidentes pour le monde entier.
Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby, n'a pas eu grand-chose à dire lorsqu'on lui a demandé lundi si Washington craignait que l'Ukraine n'utilise des armes fournies par les États-Unis contre la Russie. Les analystes estiment que l'action de l'Ukraine est une surprise et qu'il s'agit probablement d'une tactique visant à lasser Moscou.
Ciao. Et voilà, c'est tout pour Le Monde aujourd'hui. Vous pouvez réécouter ce journal sur voaafrique.com et aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Je suis Nanit Talani. Lionel Gaïma a assuré la mise en onde et Carl Sterling était à la console. Au revoir et à très bientôt.